cours de métaphysique à Saint-Jean-d'Arc par le père Philippe le 21 octobre 1987.
C'est pour ça qu'on peut dire que le bien commun est finis, Espandard et finalise. Tandis que la nuit, je ne le fais pas. Je le reçois. Je le découvre. Je l'aime. Seconde petite question. Peut-on se demander qu'est-ce que c'est que l'être? Cette question a-t-elle un sens? Vous avez devancé ce qu'on a dit, puisqu'on n'a pas encore posé la question. Donc, il y a un petit a priori. Voyez, vous avez un a priori. Qu'est-ce que c'est que l'être pour vous? Vous ne savez pas. Donc, quand vous posez la question, qu'est-ce que c'est que l'être à un sens? C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'être. C'est pour ça qu'on n'a pas posé la question, qu'est-ce que c'est que l'être? J'en ai pas encore parlé. Je parlais du jugement d'existence. C'est pour ça qu'elle est très bien, cette question. J'ai posé le jugement d'existence. Je n'ai pas encore vu naître la question qu'est-ce que c'est que l'être? C'est important. Parce que ça ne dépend pas du ciel, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est très bien. Celui qui pose la question doit se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que c'est que l'être? Rien du tout. Alors, c'est très bien. Vous posez parce que comme ça, je suis obligé de montrer que c'est un a priori. Il semble qu'on ne puisse pas analyser l'être. Voyez, voilà l'a priori. Qu'est-ce que c'est que l'être? Pourquoi on ne peut pas l'analyser? Pourquoi? Parce que celui qui a posé cette question a oublié le jugement d'existence. J'ai posé la question par le jugement d'existence. Ceci est. Alors on dit. On peut seulement le constater. Mais si je demande le jugement d'existence, ceci est, je constate. Je ne vais pas en poser plus. Mais c'est très intéressant comme question, parce qu'on voit très bien les a priori. Et c'est le grand a priori de ceux qui actuellement disent qu'est-ce que c'est que l'être, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Ceci est. On télescope tout de suite le jugement d'existence et on pose toute la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Restez d'abord sur le jugement d'existence. Ceci est. Est-ce que ça a un sens pour vous? Quand vous constatez signification pour vous dans l'affirmation qu'est-ce que c'est? Ceci est. Je vous ai dit, c'est à partir du jugement d'existence que la philosophie première peut naître. Et si on ne voit pas le jugement d'existence, la question qu'est-ce que c'est que l'être n'a pas de sens. Alors, tout à fait d'accord, c'est abstrait. Qu'est-ce que c'est que le bien se pose à partir du bien personnel, concret, l'ami, se pose à partir du bien commun. Et à partir de ces deux biens, je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que le bien? Et puis je me pose la question, à partir du jugement d'existence, ceci. Alors c'est justement à partir de là que nous allons essayer de voir les diverses avenues. Donc, les cinq expériences posées, je vois qu'elles ont quelque chose de commun, le jugement d'existence. Chaque fois que vous expérimentez quelque chose, au sens fort, le jugement d'existence est présent. Ceci est mu. Ceci se meut. Je travaille. J'aime. Le jugement d'existence est toujours présent. Mais il est caché. expérience. Je n'expérimente pas l'être directement. Vous expérimentez l'être à travers le devenir, à travers le vivant, à travers le travail, à travers l'amour. Ça, c'est très important de comprendre ça, pour rester dans le réalisme de l'expérience. Et vous allez rester dans ce réalisme de l'expérience. Et à partir de là, je peux très bien expliciter ce qu'il y a de commun à travers toutes mes expériences. Et ce qu'il y a de commun à travers toutes mes expériences, c'est ceci. Explicite le quelque chose de commun qui se donne ordinairement à travers les diverses expériences. Ceci est. Quand j'affirme ceci est, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est justement cela que la scolastique a oublié. En réalité, quand Heidegger parle de l'oubli de l'être, c'est pas vrai. Ce qu'on a oublié, c'est le jugement d'existence. Mais c'est pas la même chose. On a oublié quelque chose de plus fondamental. Regardez comment commencent les métaphysiques traditionnelles depuis Suarez. Et je dis bien depuis Suarez. C'est intéressant à constater. C'est facile à faire. La dernière volume qui est apparu, c'est le père de finances. Le père de finances est un très saint homme. J'aime beaucoup. C'est un homme merveilleux. Et à la fin de sa vie, parce qu'il est déjà assez âgé actuellement, le père de finances dit « Je vais faire paraître mon cours parce qu'on me le demande. » Et il a tout à fait raison. Donc, c'est le dernier scolastique, traditionnel, de la philosophie première, telle qu'elle est donnée depuis Suarez. On commence par les transcendentaux. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que cette grosse bête ? On commence par les transcendentaux. Les transcendentaux sont dans saint Thomas De Veritate. Question 1, article 1. Je crois qu'on vous en a donné une traduction pour que vous puissiez plus facilement lire cette page qu'il faut absolument lire. Parce que c'est suite d'Avicenne, c'est l'essence. Il faut faire grande attention. C'est la réalité existante. Mais c'est pas la réalité existante que je constate. C'est ce qui permet à la réalité d'avoir sa détermination fondamentale. C'est la détermination fondamentale de la réalité. Res. C'est pour ça qu'on dit essence. L'essence, c'est la détermination fondamentale. Uno. Ce qui fait que chacun est indivisé et divisé des autres. Ou plus exactement, ce par quoi chacun est indivisé. On est un quand on ne peut pas être divisé. Tant que vous pouvez être divisé, vous n'êtes pas totalement un. Parce qu'il y a toujours le danger que quelqu'un vient vous diviser. Il vous coupe en deux. Vous êtes un, le ver de terre. Il est un. Mais si vous le coupez en deux, il n'est plus un. On est un dans la mesure où on est incapable d'être divisé. Mais tant que vous êtes capable d'être divisé, vous avez toujours le danger d'être divisé. Et donc vous n'êtes pas totalement un. Vous êtes un composé. L'un, la raison même d'un, c'est d'être indivis. D'être au-delà de la division. À liquide, ce qui est un en soi est divisé des autres. Le verrou. Ce qui est capable de déterminer mon intelligence. Et le bonhomme, ce qui est capable d'attirer ma volonté. Saint Thomas nous dit que nous sommes en présence des cinq rationes convertibles avec la ration indis. Voilà la définition du transcendantal, selon saint Thomas. Ce dont la raison est convertible avec la ratio etis. C'est-à-dire convertible, ayant même extension et même compréhension. C'est sûrement quelque chose de très intéressant, cette question première, article premier. Et c'est sûrement quelque chose qui caractérise la pensée de saint Thomas. Je suis tout à fait d'accord. Si on regarde le maître de saint Thomas, donc Albert le Grand, on voit qu'Albert le Grand parle aussi des transcendentaux, mais de cette manière très curieuse. Il dit res et unum. Ça, c'est les transcendentaux des philosophes. Verum et bonum, c'est les transcendentaux qui proviennent des saints, c'est-à-dire saint Augustin. Et Albert le Grand ne parle pas d'aliquide. Ça, c'est très intéressant de voir que saint Thomas ajoute à liquide que Albert le Grand n'avait pas. Et Albert le Grand prenait les deux grandes traditions, la tradition philosophique, Avicenne, Aristote, Augustin. Il constate qu'en effet, on est en présence de notions tout à fait premières. Oui, c'est comme ça qu'on pourrait le mieux comprendre les transcendants. Ce sont des notions tout à fait premières. Ce sont des notions immédiatement rattachées à l'être. Et comme la ratio entis, c'est ce qu'il y a de plus fondamental, ces rationes sont tout à fait fondamentales. Elles sont premières, puisqu'elles se rattachent directement à l'être. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont convertible avec l'être. Mais vous voyez la question. D'où viennent ces rationnels? D'où ça vient? question, parce que si je les prends comme des notions innées, c'est pas vrai, parce que tout le monde ne les donne pas. Prendre comme point de départ de la métaphysique les transcendentaux, c'est confondre la critique et la métaphysique. Parce qu'en réalité, c'est rationes, c'est le fruit d'une réflexion critique sur la métaphysique. Ces rationes, elles existent. Ce sont nos concepts tout à fait fondamentaux. C'est-à-dire, ces rationes fondent nos concepts tout à fait fondamentaux. Le concept d'être, le concept de la détermination dans l'ordre de l'être, le concept de l'un, le concept de l'acte, le concept du vrai et le concept du bien. Ces rationes sont le fruit d'une réflexion critique. Et donc c'est quelque chose de très élaboré. Ces rationes, c'est quelque chose de très élaboré. C'est au terme de toute la métaphysique et de la critique qu'on peut comprendre ce que c'est que ces rationes. Ce n'est pas du tout un point de départ. Et je crois que là, on touche l'erreur de Suarez d'avoir pris comme point de départ une réflexion critique. Bon, vous comprendrez ça progressivement, parce que ça, c'est une chose très difficile à comprendre. Mais c'est très important. C'est très important de comparer la philosophie première, scolastique, habituelle, depuis Suarez, et l'effort que je fais avec vous de redonner à la métaphysique son ordre génétique. C'est-à-dire comment les questions se posent et non pas de partir de résultats, de partir d'une critique qui présuppose toujours une découverte. Donc, comprenez qu'il y a là un problème important sur lequel il faudra revenir constamment. Je ne fais que l'élaborer ici pour vous montrer que je ne prends pas ce point de départ du père de finance. Alors regardez le livre du père de finance, la métaphysique du père de finance. Et vous verrez qu'en effet, on part des transcendentaux. Le père Geiger, quand il faisait son cours de philosophie première au Sojoir, commençait par les transcendentaux. Et quand je prenais l'autre partie du cours avec lui, moi je commençais par la substance. On verra. Alors je disais, on commence par le dessert. Les transcendentaux, c'est le dessert. C'est quelque chose de magnifique, ça c'est vrai. C'est très étonnant cet article. C'est génial, cette question. Il faut l'avoir lu, médité, réfléchi dessus. Et c'est capital. Parce que je vous dis, c'est la rencontre de Albert le Grand, Thomas d'Aquin. C'est le sommet de la tradition philosophique, de la tradition des théologiens comme saint Augustin, et tout ça résumé dans un seul article au niveau des rationes. C'est très génial. Mais à quel niveau sommes-nous? Sommes-nous à un niveau de recherche? Sommes-nous à un niveau de critique? Et c'est ça l'important, parce que quand on commence à confondre critique et philosophie première, on ne voit plus rien du tout. Alors, je reviendrai tout à l'heure pour bien vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que la critique. Parce que maintenant, vous dites critique, qu'est-ce que c'est que la critique? On va voir tout à l'heure. Donc, je laisse tomber les transcendentaux. Et je dis que la philosophie première ne commence pas par les transcendentaux. Et vous voyez, la petite objection de tout à l'heure, c'était justement dans le cadre de ça. Qu'est-ce que c'est que l'être? La ratio entis. Qu'est-ce que c'est que la ratio entis? C'est très difficile de le savoir. La ratio entis, chacun d'entre nous, nous la découvrons dans une perspective critique au terme de la philosophie première. À moins d'être comme Rosmini, qui dit que le concept d'être m'est donné tout de suite. Ça, c'est la théorie de Rosmini. Alors que je dis non, le concept d'être n'est pas donné tout de suite. Le concept d'être, il met du temps à être acquis. Comme Heidegger dit, pas de concept d'être. Oui, c'est très intéressant de voir ça, de voir ces diverses positions. C'est très difficile de voir le commencement de la métaphysique. Mais c'est très important. Cette parole d'Aristote, il ne faut jamais oublier. L'erreur du point de départ a d'immenses conséquences dans la suite. Tous ceux qui, en Suisse, ont vu la source du Rhône et du Rhin, voient très bien que géographiquement, c'est pas très loin. Et si on confondait le Rhône et le Rhin, ça fait des catastrophes pour ceux du Rhône et pour ceux du Rhin. Vous voyez, l'erreur au point de départ, les confusions au point de départ ont d'immenses conséquences. Pensez toujours au Rhône et au Rhin. Je ne sais pas ce que je pourrais donner comme exemple, le Liban, mais il doit y avoir quelque chose comme ça. Voyez, voie géographique, puisque le Rhône et le Rhin, c'est l'Europe. C'est la France et l'Allemagne. C'est très curieux, du reste. Et quand je suis en Suisse et que je regarde les deux sources, la parole d'Aristote est illustrée admirablement. Et Aristote ne parlait pas du Rhône et du Rhin. Il parlait de la Grèce. Donc, je pars du jugement d'existence et non pas des transcendentaux. Alors, progressivement, vous comprendrez ce que c'est que les contes transcendentaux. Progressivement, vous verrez mieux la différence qu'il y a du jugement d'existence, ceci est, et les transcendentaux. Ce jugement d'existence, ceci est, je constate, oui, qu'il existe quelque chose, que quelque chose m'est donné. Ceci est. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que est? Alors, c'est ici qu'il faut être très attentif à ce point de départ. Je constate, ceci est présent à toutes mes expériences. Toutes mes expériences impliquent ce jugement d'existence. Je peux, dans tout jugement, mettre l'accent sur ceci, ou l'accent sur est. Puisque tout jugement implique nécessairement quelque chose de complexe. Ce n'est pas simple. C'est quelque chose de complexe. Si c'est quelque chose de complexe, je peux très bien mettre l'accent sur le nom ceci, ou sur le verbe. Sens d'un nom et d'un verbe. Si je mets l'accent sur le ceci, je suis en face de n'importe quelle réalité existante. Et s'identifie à ceci. c'est la vache, c'est Pierre, c'est Jacques. Ceci. Toute espèce de réalité. Je ne précise pas. Ceci. Ceci existe. Ceci est. À ce moment-là, qu'est-ce que je vois? Je vois la diversité des ceci. Je n'exclus rien quand je dis ceci est. Rien n'est exclu. Toutes les réalités existantes que je peux constater, toutes celles que j'ai constatées, c'est le ceci. Ceci. C'est un mouchoir. Du tableau. Alors, c'est le ceci est. C'est le chien, c'est le chat, n'importe quoi, c'est l'homme, c'est Jacques, Pierre. Je peux aussi mettre l'accent sur est. Mais comme c'est curieux, hein, le jugement d'existence. Si je mets l'accent sur est, je dis ce chat existe, ce chien est, et commun. Alors, je vois la diversité et l'unité. Dans le jugement d'existence, il y a cette chose très curieuse. J'unifie toute la diversité des réalités. Puisque le ceci n'exclut personne. Les réalités que je constate, que j'expérimente, existent. Et donc, elles ont toutes quelque chose de commun. Elles existent. Elles sont. Je vois donc l'unité dans la diversité. Vous savez, Raïssa, Maritain, parle de l'intuition de l'être, et Jacques l'a repris. L'intuition de l'être. Bon, ceux qui connaissent un tout petit peu Maritain savent que l'intuition de l'être de Maritain, c'est la pièce dominante de toute sa philosophie. Si vous n'avez pas l'intuition de l'être, vous ne pouvez pas faire de métaphysique pour Maritain. Pour Maritain, c'est l'intuition de l'être. C'est donné à certains, c'est donné à saint Thomas. Aristote n'a pas eu l'intuition de l'être pour Maritain. Mais Maritain l'a eu. Aristote ne l'a pas eu. C'est-à-dire Raïssa l'a eu. Et grâce à Raïssa, Maritain l'a eu. Et quand je regarde qu'est-ce que c'est que l'intuition de l'être chez Maritain et chez Raïssa, je vois que c'est tout simplement ça. Du reste, elle le dit. Un jour, elle me l'a dit. Parce que je l'ai connu. Ah, un jour, Raïssa était devant un petit chat. Et puis elle s'est dit, mais il existe. Et moi aussi. Comment ça se fait? Comment ça se fait que il existe et j'existe? C'est très troublant, ça. Quand vous êtes en face d'une vache, elle existe. Et vous aussi. Et vous n'êtes pas dedans, comme le petit veau. La vache existe, j'existe. Il y a donc une unité dans la diversité. Or, en effet, saisir l'unité dans la diversité, ça relève d'une intuition. Saisir l'unité dans la diversité, ça relève de l'intuition. Mais voyez bien, c'est pas l'intuition de l'être. C'est tout simplement saisir que la diversité de toutes les réalités a quelque chose de commun, puisque toute cette diversité existe. Donc il y a une unité dans la diversité. Et saisir cette unité dans la diversité, ça c'est vrai, c'est une certaine intuition. Je crois que toute intuition consiste à saisir une unité dans la diversité. Mais voyez bien, je ne suis pas dans le jugement d'existence. c'est le contenu du jugement d'existence qui se répète indéfiniment dans une très grande diversité. Mais ce n'est pas l'être. C'est de fait les diverses modalités de l'être qui impliquent une certaine unité. Alors, il y a une certaine intuition, je suis d'accord. Et cette intuition me permet de me poser avec beaucoup d'acuité le problème, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, c'est ça qu'il faut maintenant bien comprendre. Je crois que ce premier moment trahissant, nous pouvons tous le saisir. Regardez un petit chat. Oh, regardez votre voisin, c'est un autre petit chat. Regardez votre voisin. Et vous dites, mais il existe. Qu'est-ce qu'il fait? Il existe et moi aussi j'existe. C'est très ennuyeux. Nous existons à deux. Donc il n'y a plus rien d'original en moi. Il existe, j'existe. Alors quelle est mon originalité? C'est tout ce qui est à côté de l'être. Donc ça n'existe pas. Puisque lui existe et moi j'existe. Vous voyez, là, on peut saisir ça, et c'est important de saisir ça. Je comprends très bien que cette intuition trahissant est très importante. Elle remet en lumière quelque chose de très simple, de tout à fait premier. L'œcuménisme de l'être. L'être est présent à toutes les réalités qui existent. Il est caché dans toutes les réalités qui existent. Il est dans le ceci. Ceci est. Je peux, à partir de là, être dans un étonnement, dans une admiration. Comment se fait-il que l'exister est présent à tous les soucis? Puisque le chat existe. La vache existe. Si le chat existait parce qu'il était chat, la vache qui est différente du chat n'existerait pas. Donc l'exister n'appartient pas au chat. Puisque la vache aussi existe. Et que vous aussi vous existez. Donc votre exister ne vous appartient pas. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus faux. J'existe. Et ça ne m'appartient pas, puisqu'à côté de moi, il y a quelqu'un aussi qui existe. C'est très troublant, ça. Ah, voyez, vous commencez à dire un tout petit peu, mais qu'est-ce que c'est que l'être, hein? Vous commencez à vous poser la question. Et voyez la signification à partir du jugement d'existence, pas avant. Et vous commencez à voir que l'analyse, elle est bien là. Puisque être, il est dans ceci. Il y a le chat qui existe, il y a la vache qui existe. L'exister n'appartient pas au chat, l'exister n'appartient pas à la vache. Donc dire qu'il n'y a pas d'analyse de l'être, c'est faux. Puisque l'être est présent dans toutes ses réalités. Je dois donc me demander, qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'exister? Eh bien, à partir de cette unité dans la diversité, je peux me poser la question, qu'est-ce et exister, être, présent dans toutes les diversités? Alors là, je suis en présence de quelque chose de très important. Je passe du jugement d'existence, où je saisis quelque chose de concret. Je constate. Le chat existe. Ce chat existe. Ce miné de Raïssa, il existe. Cette vache que je caresse existe. Alors, ce n'est pas le ceci. Ce n'est pas telle réalité. C'est autre chose. Il y a donc une intuition. Certaines intuitions. Certaines intuitions. se trouve diversifié à travers toutes ces réalités. Et à partir de cet étonnement, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, voyez bien l'abstraction de l'interrogation. Nous y reviendrons. On passe de et à être. Nous passons de ceci et. Oh, et il est dans ceci. Et quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Je sépare être du ceci. Est-ce que c'est légitime? Ceci, c'est n'importe quoi. Et quand je dis qu'est-ce que c'est que l'être, j'abstrais et du ceci. Mais c'est une chose extraordinaire de l'interrogation. Je mets toute la lumière, tout l'accent sur être. Qu'est-ce que c'est que être? Qu'est-ce que c'est que exister? Le passage du concret à l'abstrait. Être, c'est abstrait. C'est pas concret du tout. Il y a un lien entre les deux. Ici, je suis en face d'un verbe au présent. Ici, je suis en face d'un verbe à l'infinitif. Un peu de grammaire. Hein. L'infinitif, c'est très curieux, l'infinitif, vous savez bien. Cette possibilité que vous avez de passer du présent. Ceci est être. C'est quand même curieux, ça. D'abstraire le et de tous les soucis. Et de le mettre sous cette forme abstraite, l'être. Je passe du présent à l'infinitif. Mon intelligence est capable de faire ça. Le concret à l'abstrait. Et vous voyez bien que l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est l'abstrait. Si donc je commence par l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Sans passer par le concret,